sur Radio Conciel. C'est une émission proposée, réalisée et présentée par Elisabeth Couget et Christine Afota. Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, notre émission va nous plonger dans le déroulement des événements de l'année 1993. Donc, c'est pas si loin que ça. En revoyant cette chronique, nous nous sommes rendus compte avec Christine que la société et même les événements de cette année-là nous rappellent tous ceux qui font notre actualité maintenant. Alors, tournons les premières pages de cette année 93 et commençons par évoquer une nouvelle, disons, amusante. Alors, les Italiens privés de baiser au volant. Voilà le titre de cet article paru à Rome ce 1er janvier 1993. C'est un nouvel article du Code de la route selon lequel il est formellement interdit d'embrasser et encore moins de mordiller l'oreille du conducteur, car il pourrait perdre le contrôle du véhicule, dit la nouvelle loi.
C'est pas faux.
Tout à fait. Une autre interdiction entre en application au même moment, ce début d'année, qui est quand même plus important. Et c'est plus sérieux, il s'agit de l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables. Déjà, à l'époque où il y avait très peu de téléphones portables en France, en Italie, déjà il y avait une loi qui l'interdisait son utilisation. Et il y avait autre chose encore, à la campagne, il est devenu interdit aux attelages paysans de laisser des traces de boue ou de déjection sur la route. C'était une gageure.
Oui, parce qu'il fallait nettoyer les pneus avant de passer sur la route. Je vois pas comment.
Il n'y avait pas de pneus, ils avaient des roues.
Des roues. Alors, l'année commence par une vague de froid qui s'est abattue sur le pays. Et hélas, comme d'habitude, ce sont les sans-abri qui forment la majeure partie des victimes. Des sans-abri, il y en a entre 200 et 400 000 dans l'Hexagone, en France. Et voilà, ça commence donc tristement pour eux.
Exactement. Une autre nouvelle qui est aussi triste malheureusement arrive en ce début janvier. Le seigneur de la danse a fait le saut de l'ange. Je vais parler de Rudolf Nureyev qui est décédé à l'âge de 55 ans du sida, hélas.
Quelles étaient ses origines?
Alors, il faut savoir qu'il était né à Vladivostok. Il a eu une vie à l'image de ses origines, tatar, toujours entre deux villes, deux défis, une vie de nomade, tout compte fait, et très cosmopolite. Les Parisiens découvrent le jeune danseur soviétique en 1961, qui décide de rester à l'ouest, et il est rapidement placé au sommet que seule la maladie et la mort feront lui abandonner.
Une terrible accusation fait le tour du monde en ce début d'année. Il s'agit des Serbes qui, en Bosnie, utiliseraient le viol systématique contre des civils musulmanes comme arme de guerre. Hélas, l'enquête confirme l'accusation et parle de plus de 20 000 femmes et fillettes qui ont été violées dans ces camps mis en place en vue de purification ethnique.
Et oui, sans oublier l'humiliation que ça a provoqué dans la population bosniaque. La mafia sicilienne existe toujours ce printemps de 1993, mais la police travaille. Et voici que le numéro 1 de la Cosa Nostra vient d'être arrêté en plein centre de Palerme. Il s'agit de Totorina, réputé pour ses méthodes sanguinaires. La lutte entre les familles a provoqué plus de 150 assassinats et d'une effrayante surenchère terroriste. La capture de l'homme le plus recherché de l'Italie, responsable aussi de la mort du juge Falcone, est un beau succès de la police antimafia.
En 1993, 4 ans après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne a du mal à digérer la réunification. Malgré le pacte de solidarité qu'Helmut Kohl a réussi à faire adopter, le redressement budgétaire de l'ex-RDA ne sera pas aisé.
Et oui, une sacrée différence entre les deux parties de l'Allemagne. Alors, je continue cette chronique par une nouvelle qui nous a tous attristés malheureusement. Audrey Hepburn, la magnifique comédienne américaine, mais d'origine anglaise, n'oublions pas, a perdu la guerre contre le cancer et nous a quittés à 64 ans, le 20 janvier de cette année-là. L'héroïne de My Fair Lady et de George Cukor, qui, pour son interprétation, a reçu un Oscar en 1953, 40 ans plus tard, a tiré sa révérence et nous a fait ses adieux.
Triste. La guerre des Balkans, au début de 1993, est loin d'être terminée. Au sud de la Croatie, les combats ont repris entre les Croates et les Serbes. Hélas, dans le rang des casques bleus, deux Français ont perdu la vie. Ce sont les 11e et 12e victimes depuis juin 1992, il y a à peu près un an. Mmh. Et n'oublions pas les 80 blessés parmi les Français. Et bien sûr, ils ne sont pas les derniers, hélas.
Et oui, on le sait maintenant que ce n'était pas terminé là encore. Hein. Les œuvres d'art voyagent aussi quelquefois. Pour que les amateurs d'art dans les pays lointains puissent les découvrir et les admirer. Et c'est ainsi que le célèbre penseur de Rodin a quitté Paris à bord d'un avion pour Pékin le dimanche 7 février, en possession d'un passeport, s'il vous plaît, établi selon les nouvelles lois concernant la valeur des biens culturels, suivant leur intérêt artistique ou historique, ce qui devrait protéger les pièces majeures du patrimoine national dorénavant.
Il y a des événements incroyables que les simples mortels ne pourraient jamais réaliser et n'imagineraient même pas d'ailleurs de le faire. C'est ce que les Anglais ont dû se dire lorsqu'ils ont découvert deux hommes, deux Britanniques, deux explorateurs qui venaient de débarquer à Londres épuisés, amaigris, marqués par le froid, mais heureux, bien sûr, après avoir traversé à pied, attention, le continent Antarctique, sans aucune aide, ils ont parcouru 2160 km, ce qui a plus qu'impressionné le pays entier.
Ça, j'imagine.
Et nous aussi, ça nous impressionne.
Et nous aussi, n'est-ce pas, Christine?
Ben oui.
Au même moment, la jeune Slovaquie venait d'élire son président de la République, Michal Kovac, un économiste de 62 ans qui s'est bâti une réputation d'homme politique, réaliste et même diplomate, très apprécié de Prague et d'origine hongroise, vu son nom. Kovac veut dire le forgeron et c'est un nom aussi répandu que le Dupont en France.
Si je me souviens bien, il y avait un dénommé
Kovac,
de Roumanie qui était à un moment donné l'entraîneur de l'équipe de France de football. Comment est-ce possible?
Eh bien, je reviens au traité de Versailles en 1920, où la Hongrie a été, il faut reconnaître, dépecée et a perdu environ 20 millions de ses habitants et deux tiers de son territoire. Millénaire, car l'État hongrois existe depuis l'an 1000, n'oublions pas, avec Saint-Étienne à sa tête. Et ce territoire, donc, a été partagé entre la Roumanie, la Slovaquie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche et l'Ukraine. Ils ont tous eu un petit bout de ce pays-là. Voilà comment se trouve aujourd'hui tant de Kovac en Hongrie quand même, mais il y en a aussi beaucoup dans chacun des pays avoisinants.
Tant de forgerons, donc.
Exactement.
Le 26 février, une bombe a explosé dans le parking souterrain du World Trade Center, dans le centre nerveux du quartier des affaires à New York. L'explosion a blessé plus de 1000 personnes et parmi les 55 000 employés des deux tours et a provoqué la mort de 5 autres. Épargnés par le terrorisme jusqu'ici, l'Amérique craint que son territoire ne soit plus un sanctuaire inviolable.
Absolument.
Et elle le paiera
cher. On était à 8 ans.
Moins de 10 ans plus tard. Exactement.
Voilà, du 11 septembre. Voilà. Oui. Alors, 4 semaines plus tard, le FBI a arrêté à sa descente d'avion en Égypte Mahmoud Abou Halima, où il s'est réfugié après l'attentat. C'était un chauffeur de taxi naturalisé américain. Abou Halima est le quatrième suspect qui était arrêté dans cette affaire. Tous les quatre étaient en contact avec un intégriste musulman qui prêchait dans une mosquée à New York. Pour lui, pour les Américains, c'était un véritable choc d'apprendre qu'ils étaient en danger sans l'avoir même imaginé.
Tandis que les Américains découvrent les dangers du terrorisme chez eux, en France, Édouard Balladur forme son gouvernement à la demande du président de la République, François Mitterrand, dans le cadre de la cohabitation.
Alors Balladur commence apparemment par quoi ? Par réduire le train de vie, c'est ça, non ?
C'est ça, et oui, et puis surtout il cherche
à faire des économies.
Peut-être. Voilà, et à diminuer le nombre des chômeurs qui sont à l'époque de 3 millions. On pourrait dire seulement aujourd'hui.
Seulement, oui, aujourd'hui. Presque. Actuellement, on parle de la tragédie des Arméniens en Haut-Karabakh. En préparant cette émission, j'ai découvert que l'animosité entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais en 1993 était déjà brûlante. Mais en 1993, ce sont les Arméniens qui menaient la danse. Presque 30 ans plus tard, donc de nos jours, c'est le revers de la médaille, malheureusement, pour la population civile.
Et d'ailleurs, à Bakou, il y a toujours un cimetière en souvenir de ces morts de 1992.
Voilà. Oui, ça ne m'étonne pas.
Contre les Arméniens du Haut-Karabakh.
Ça m'étonne
absolument. En 1993, le tennis est toujours considéré comme le roi des sports que suivent des millions de fans à travers le monde. Et cette année-là, le numéro 1 mondial sera Peter Sampras, après avoir remporté le tournoi de Tokyo.
Le 20 avril, Bruno Perron, cette année-là, et ses quatre coéquipiers abordent leur voilier, le Commodore Explorer, ont bouclé leur tour du monde en 79 jours, 6 heures et 16 minutes, gagnant ainsi le trophée Jules Verne, créé à l'honneur de Phileas Fogg, un des héros de Jules Verne, que Bruno Perron et ses amis ont gagné. N'oublions pas que dans le roman de Jules Verne, Phileas a fait le tour du monde en 80 jours. Donc, le record de Phileas venait d'être battu. Alors, célébrons cette victoire durant cette pause musicale, autour d'une tasse de thé peut-être, avant de nous retrouver. Voici en train de feuilleter les pages de l'année 1993 dans notre émission cette année-là. Tout à l'heure, nous avons parlé de Pete Sampras et du tennis qui, malheureusement, n'est pas plus à l'abri de la violence que n'importe quelle partie de la vie. Ce tout début d'été, un grave incident a éclaté au cours du tournoi de tennis à Hambourg. Durant le match opposant Monica Seles à Magdalena Maleeva, Seles s'était assise entre deux jeux quand un individu surgit des tribunes, s'est précipité sur elle pour le frapper dans le dos avec un couteau. Déjà, les couteaux. L'homme arrêté a déclaré être un fan de Steffi Graf et c'est pour ça voilà, qu'il a attaqué Monica Seles. La blessure de Monica était heureusement sans réelle gravité, mais sa carrière a été d'une certaine façon coupée nette et elle n'est plus jamais devenue ce qu'elle promettait d'être avant ce match funeste.
Tu avais raison de dire que certains événements de 93 ont une
nous rappelle tout, répercussion ces couteaux, tout ça, à tout bout de champ.
Alors ce 1er mai 1993 a été marqué par la fin tragique de l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, Pierre Bérégovoy, qui s'est tiré une balle dans la tête. Il est mort durant son transfert vers Paris. Quelle est l'explication du suicide d'un des plus fidèles lieutenants du président Mitterrand ? L'acharnement des journalistes y était pour beaucoup. Mitterrand, en colère, s'en est pris à ceux qui ont livré aux chiens l'honneur d'un honnête homme.
Mais je crois que sa colère venait aussi du fait qu'il n'a pas soutenu son ami de plusieurs décennies et qu'il se sentit fautif de l'avoir abandonné et d'avoir abandonné celui dont le suicide a bouleversé le pays entier.
Oui.
Au même moment, le New York Times vient de faire une révélation assez choquante, selon laquelle Walt Disney, le fameux Walt Disney, le roi du dessin animé, n'était autre qu'un agent indicateur du FBI de 1940 à 1966. À ce moment-là, il renseignait la police sur des activités subversives et communistes de ses pairs ou de ses employés d'Hollywood, dénonçant les grévistes ou les syndicalistes. On en déduit que Walt Disney a été l'un des artisans zélés de la chasse aux sorcières.
Heureusement qu'il a fait aussi autre chose.
Oui.
À la fin du mois de mai à Florence, le fracas d'une explosion terrible a réveillé les habitants du quartier de la Galerie des Offices. L'escalier de la dernière aile des Offices a été détruit, 5 personnes ont trouvé la mort et un certain nombre de chefs-d'œuvre sont perdus à jamais. La mafia semble être à l'origine de cet attentat qui vise le patrimoine artistique italien et aussi la déstabilisation du pays.
Oui. Tandis que Florence pense ses plaies, Sarajevo, au milieu des bombardements, vient d'élire sa reine de beauté dans une salle de cinéma devant plusieurs centaines de personnes. La Miss de Bosnie, Imela Nogic, une jolie blonde de 17 ans aux yeux verts, n'a pas vraiment profité de sa couronne, qui a été obtenue au milieu des explosions et des sifflements des balles. Mais ceci est finalement encourageant, car malgré tout, on voit que la vie continue, même si le voyage obtenu avec son titre de Miss n'aura jamais eu lieu.
Cet été 1993, les dinosaures arrivent aux États-Unis et partout dans le monde, d'ailleurs, après la sortie du film Jurassic Park. Et la campagne promotionnelle, les produits dérivés envahissent le pays. On retrouve les dinosaures partout, sur les t-shirts, les jouets, la vaisselle et même sur les hamburgers.
Ça, je me suis toujours posé la question, comment ils l'ont posé sur les hamburgers? C'était peut-être...
en forme de dinosaure, peut-être.
Peut-être les sachets en papier qui les emballaient.
Ah oui, oui.
Bah, je ne sais pas. Le 18 juin, pour ses 50 ans, Johnny a offert à ses fans un concert à la mesure de sa carrière, où il a interprété ses plus célèbres chansons. Ensuite, son fils David, Sylvie et Eddie Mitchell l'ont rejoint sur scène et ont montré à la foule chauffée à blanc qu'il méritait ses galons de superstar.
En juillet, le TGV Eurostar a traversé la Manche par le tunnel à faible allure, tracté par des locomotives. Mais cette première a prouvé qu'ainsi, Paris sera relié à Londres en moins de 3 heures.
Et oui.
Et oui, en 93, il n'y avait pas encore la liaison par TGV, Eurostar.
À la fin de cet été, 93, l'Inde vient de prendre des mesures radicales pour sauver le Taj Mahal. Pour cela, on a ordonné la fermeture de 212 usines et d'ateliers d'Agra, la ville où se trouve le Taj Mahal, et ces usines qui sont responsables des émissions de fumée polluantes. Le magnifique mausolée, ce joyau architectural construit par Shahjahan, est ainsi sauvé de la pollution causée par ses usines chimiques. Tous ceux qui connaissent ce monument exceptionnel, ou ne serait-ce que de l'avoir vu sur photo, trouvent ces mesures de sauvetage très importantes. Et
on doit protéger le Taj Mahal.
Absolument. Alors, en y réfléchissant, ce que nous pouvons faire contre ces pollutions... Je vous propose une petite pause musicale.
Thank you.
Le début de l'automne a offert aux Parisiens, amateurs d'art, une incomparable collection de tableaux au musée d'Orsay. Réunis par le Dr. Barnes de la Pennsylvanie, c'est une collection visible pour la première fois à l'étranger. De Cézanne à Matisse, des impressionnistes à l'après-cubisme, ce rassemblement de chefs-d'œuvre est totalement inédit. Les tableaux ont été achetés à Paris avant et après la Première Guerre mondiale. C'est une juste retour des choses et je suis ravie de les avoir vus. Et la chance.
À la mi-septembre de cette année-là, 1993, un moment historique s'est déroulé à Washington devant les caméras du monde entier. Une poignée de mains échangée a scellé la paix entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, sous la présence de Bill Clinton, moment que les Palestiniens et les Israéliens attendaient depuis le traité de paix israélo-égyptien signé en 1979 à Camp David.
Dans ces années 1990, au moment où fermaient les derniers puits de charbon, Germinal arrive sur les écrans. C'était un film réalisé par Claude Berry, d'après le livre-reportage écrit par Émile Zola. Le résultat est une fresque sincère, toute pleine de suie et de larmes. La première du film a eu lieu dans le pays des Corons. Il a eu un grand succès. Les rôles ont été interprétés par des acteurs inspirés et remarquablement dirigés, dont Renaud, n'oublions pas.
Nous retournons vers l'Inde, ce pays où il y a tant de pauvreté, même lorsque la situation du pays est stable. Mais quand une catastrophe, même naturelle, arrive, c'est encore plus difficile. Et c'est ce qui est arrivé à la fin du mois de septembre, cette année 1993. Un terrible séisme venait de ravager l'état de Maharashtra, au sud-est de Bombay, et qui a provoqué la mort de 16 000 personnes.
N'oubliez pas, nous sommes en Inde, les superlatifs et les nombres de,
les chiffres de victimes sont chaque fois très
impressionnants. Hein. Et oui, parce que le tremblement de terre s'est produit durant la nuit et les maisons se sont effondrées sur des familles entières endormies. Alors quand on connaît comment sont les maisons, souvent en adobé, enfin en pisé, voilà, ça s'est écroulé, c'était terrible. Hein. Cette catastrophe a ému le monde entier, mais l'Inde, par fierté nationale, mal placée je crois, hein, a commencé par refuser l'aide humanitaire, mais face à l'ampleur de la tragédie, le gouvernement finalement a changé d'avis et l'aide internationale est vraiment bienvenue. C'est la pauvreté qui semble être le principal responsable de la gravité du sinistre, très certainement.
En octobre 1993, commence en France le problème du port du foulard.
Déjà.
Depuis un mois, 4 élèves de religion musulmane viennent en cours, la tête couverte, au collège de Nanterre. Les professeurs refusent d'assurer leurs cours dans ces conditions et se mettent en grève, tandis que les élèves refusent d'obéir, rejetant les principes de la laïcité en règle en France, dans les écoles de la République.
Alors, autre chose, le prix Nobel de la paix, en 1993, a été attribué à Nelson Mandela, en partage avec Frédéric de Clercq, pour couronner leur courage politique et le démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud, parce que n'oublions pas que ces deux hommes étaient des co-présidents à ce moment-là. Après la libération de Mandela. Voilà.
Et de ce fait, la situation dans le pays est devenue paisible ?
Non, pas vraiment, malheureusement. Les réactions étaient assez mitigées, et malheureusement, les violences continuaient. Pourtant, les institutions démocratiques commencent cette année-là à être mises en place, malgré tout.
C'est cette démocratie que le gouvernement français espérait en recevant comme un véritable chef d'État Yasser Arafat pour les Palestiniens. Le chef de l'OLP, avec ce voyage, voulait rendre hommage au soutien que la France a apporté à son organisation. Arafat a profité de son séjour pour rencontrer les différents dirigeants politiques au milieu des réceptions
fastueuses, sûrement, comme ça le fait la République dans les palais de la République, n'est-ce pas ? Ça se fait beaucoup. Alors, cette fin d'année 93, l'Italie pleure le grand magicien du cinéma italien, Federico Fellini, qui venait de mourir. Il était journaliste, passionné de bande dessinée. Il est devenu célèbre après avoir réalisé en 1954 le fameux film avec Giulietta Masina, qui est devenue sa femme par la suite, qui s'appelait La Strada. Ensuite, il était scénariste de La Dolce Vita, qu'a réalisé Roberto Rossellini et qui deviendra son film culte en 1960. Son imaginaire a fait de lui un génie du 7e art. C'est à Rimini, son village natal, que les funérailles de l'immense Fellini ont eu lieu. Avant la cérémonie, son cercueil a d'abord été exposé au public dans le studio 5 de Cinecittà à Rome, où Fellini avait tourné nombreuses de ses films.
Les années
90, c'était pas terminé encore, non.
Non, et puis elles étaient célèbres pour aussi les fameuses dictées organisées par Bernard Pivot.
Oui, je m'en souviens.
Qui attiraient beaucoup de monde. Et cette année 93 n'était pas différente des autres années. Et le 11 décembre, quelques 144 finalistes se sont retrouvés sur les bancs de l'Assemblée nationale pour écrire, si possible sans faute, sous la dictée du professeur Pivot, en espérant être victorieux au concours du Dico d'or de cette année.
Exactement. Alors, l'année 1993 a failli mal se terminer, malgré tout, pour les passagers du TGV Valenciennes-Paris plutôt, lancé à 300 km à l'heure, qui a brutalement quitté la voie, sans toutefois se coucher, et heureusement, les 170 passagers s'en sont sortis relativement sains et saufs. En fait, j'avais envie de terminer cette chronique de 1993 par cet incident qui s'est bien terminé. Mais on ne peut oublier les malheureux Bosniaques à Sarajevo qui ont fini cette année 93 toujours sous les bombes serbes. En plus, la capitale de Bosnie-Herzégovine était dramatiquement privée d'eau, d'électricité, de combustible, de médicaments et de vivres en général. Une maigre consolation pour eux, les Serbes ont permis le passage d'un convoi humanitaire et ceci a adouci quelque peu cette fin d'année de guerre. Voici donc, en une courte demi-heure, les principaux événements de l'année 1993 dans notre émission.
Et qui nous a donné l'occasion de voir qu'elle avait des échos encore dans notre vie d'aujourd'hui.
Absolument.
Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle évocation d'une autre année sur Radio Grand Ciel dans notre émission
Cette année-là.
Au revoir. Hasi bonango mandela china la pekona la pefeli kona.